la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebekech, assisté par Victoria. Ce libre journal est diffusé en direct mercredi 18 juillet de 18 à 21h, en différé jeudi 19 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Il est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérer à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir.
Reconquérons, reconquérons.
C'est beau, hein ?
C'est beau, ça, hein ?
Oh, qu'est-ce qui fait beau ! Je parle pour les Parisiens, parce que pour les habitants des communes suburbaines de la France profonde, il fait peut-être beau, je sais pas, par exemple à Rouen, à Caen, à Cherbourg.
Il fait toujours beau, quelque part, comme ça il pleuvra un peu plus.
Ça va aller, on va essayer de tenir sans... comme ça, de toute façon, il ne faut pas venir la pluie. Hein. Quel temps fait-il au Mans ? Quel temps fait-il à Chartres ? Et quel temps fait-il dans le Maghreb ? Parce que les gens qui nous écoutent par TPS.
Hein ? Ils sont au soleil, peut-être.
Ah, ça va. Donc, ce soir, nous allons consacrer le début de l'émission à une petite revue de l'actualité. Rapide, je vous rassure. Et le reste de l'émission, on va parler d'un sujet qui n'est pas du tout d'actualité. Parler de deux sujets. D'abord, on va parler de Mitterrand. Je trouve qu'on parle jamais assez de Mitterrand. Parce qu'il y a quand même une chose, c'est que tant que Mitterrand était au pouvoir, je croyais qu'on pouvait pas faire pire. Je me disais, je vois pas comment on peut faire pire. Et puis, c'est ça le péché contre l'espérance, vous voyez.
Oui.
Hein, c'est de croire que, voilà, on a touché le fond.
Non.
Comme disait, je sais plus quel cinéaste, arrête de ramer, on attaque la falaise. Et là, c'est extraordinaire. Vous avez vu, Chirac?
Qu'est-ce que vous lui trouvez à Chirac? Il était pas si mal.
Elle est incroyable, ça. Elle est chiraquiste, maintenant.
Non, je ne suis pas chiraquiste.
Il n'y a pas longtemps, elle était bérouste.
Ah oui, ça Bayrou, mon Dieu.
Bon. Moi, je l'ai vu, Chirac, je l'ai trouvé.
C'est le président de la République, quand même.
Ah oui, c'est justement ce que je lui reproche. Ça, c'est vrai qu'il serait agriculteur je ne sais pas comment ça s'appelle en Corrèze.
À Chirac,
Corrèze. Je n'en voudrais pas, mais ce qui m'embête, c'est qu'il soit président de la République. Qu'il fasse de la vache folle, ça ne me gêne pas, mais qu'il fasse ce qu'il fait, c'est assez limite. Enfin, de toute façon, il faut attendre le début de l'année 2002 pour savoir s'il est candidat ou pas. Candidat à sa propre succession. Ça serait rigolo d'ailleurs qu'ils disent, quand je vois l'état dans lequel se trouve la France, j'ai pas du tout envie de prendre la succession.
Ouais, tu te souviens, il y avait un...
C'est Nicolas Bonnal qui parle, j'ai pas encore dit qu'il était là, mais donc il est là.
Bonsoir, il est impatient.
Comme toujours. Non, c'est, tu te souviens du slogan de Giscard en 81? C'était maintenant il faut un président à la France.
Oui.
Comme si pendant 7 ans il n'y en avait pas eu, ce qui était d'ailleurs vrai, mais oui. C'était bien de le
c'est
dire.
Vrai, c'est
c'était
ça.
Bien de le dire.
Oui, il faut un président à la France. En tout cas, j'espère qu'on va pas s'enrhumer à cause de la pluie, parce que vous avez vu qu'ils nous ont supprimé l'Actifed. Alors ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire, parce que Lactifelt, c'est
un médicament. Vous allez faire de la publicité aux médicaments maintenant.
Non, non, pas du tout. Il faut complètement que j'ai supprimé Lactifelt. J'en prends, moi, je ne prends jamais rien. Mais je ne prends que des produits de bonne qualité. C'est-à-dire des bons vins.
Un petit coup de rhum.
Voilà, un petit coup de rhum.
Avec de l'eau autour.
Oh, pas trop.
Chaude.
Alors, ils ont supprimé Lactifelt. L'agence du médicament a supprimé Lactifelt. Et d'ailleurs, j'étais un peu étonné d'entendre la représentante de l'agence du médicament s'exprimer sur cette question. Parce que moi, je crois pas que c'était la représentante de... Bon, elle se fait passer pour la représentante, la porte-parole de l'agence du médicament, mais je crois que c'est une femme de ménage qu'ils ont trouvée dans les locaux. La façon dont elle parlait, tu n'as pas entendu ? C'était extraordinaire. Alors si c'est ça l'agence du médicament, effectivement, il faut même supprimer tous les médicaments.
J'en étais resté à Pauline Carton. Je suis Pauline Carton, pas sa bonne.
Et alors, non, je pense que c'était la femme de ménage. Enfin, j'ai rien contre les femmes de ménage, mais je préfère quand elles font le ménage et qu'elles ne s'expriment pas sur la qualité des médicaments. Tandis que là, la façon dont elles parlaient, on a vraiment l'impression que c'était ça. Et alors, donc Lactifelt a été supprimé parce que ça contient du phényléthylamide. Or, le phényléthylamide, semble-t-il, c'est celle qui a expliqué ça. Elle dit pourquoi, dans un souci de précaution,
le principe
de précaution, étant donné que le phényléthylamide risque de provoquer des hémorragies cérébrales chez les gens qui sont sujets aux hémorragies cérébrales. C'est un peu comme les escaliers, ça risque de faire tomber les gens qui sont sujets aux chutes. Supprimons les escaliers finalement.
Il faut expliquer très sommairement en quoi consiste le principe de précaution, Serge. C'est-à-dire que comme vous risquez de mourir un jour, il vaudrait mieux vous tuer tout de suite.
D'où l'avortement.
Voilà.
L'avortement, en fait, c'est pour éviter aux gens d'avoir à mourir.
De pleurer dans cette vallée de larmes.
Voilà, dans cette vallée de larmes. Et alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que le phényléthylamide, dont on nous dit premièrement que ça ne sert pas à grand-chose, et deuxièmement que c'est dangereux, c'est quand même un des médicaments qui avait été retenu par l'agence spatiale américaine, la NASA, et qui fait partie de la panoplie des médicaments qui sont emportés dans les vols spatiaux. Alors moi j'aurais tendance à penser que les médecins de la NASA sont pas plus mauvais que les médecins de l'agence du médicament. J'aurais tendance à le penser, je peux me tromper, mais pour envoyer des gens dans l'espace et les garder en bonne santé et tout, il faut quand même peut-être avoir fait un tout petit peu plus d'études.
À l'époque de Von Braun peut-être.
Non, mais même encore maintenant, je crois. Et en fait, on a compris très très vite la raison pour laquelle on a supprimé Lactifelt, c'est que dès l'annonce de la suppression de Lactifelt, on a eu un communiqué des laboratoires spécialisés qui ont dit « Mais c'est pas grave parce qu'on on vient de mettre au point un nouveau médicament sans phényléthylamide qui a exactement les mêmes effets que Lactifelt et qui va arriver sur le marché très prochainement. Naturellement, il sera un petit peu plus cher. » Bien sûr, puisque c'est spécial. Et puis d'autre part, Lactifelt, il arrivait pratiquement en fin de droit. Donc il allait commencer à être accessible à tout le monde. Donc là, on le supprime, on l'interdit. Enfin, on le fait sur... on le délivrera uniquement sur ordonnance, ce qui est intéressant parce que un autre objectif proclamé, en dehors de celui d'éviter aux gens qui ont tendance à faire des hémorragies cérébrales, c'est de faire des économies à la sécurité sociale. Donc avant, quelqu'un qui avait un rhume allait à la pharmacie, disait j'aurais une boîte d'Actifelt, on lui disait c'est 18 francs ou 24 francs ou je sais pas quoi, et il repartait avec sa boîte dans la poche. Tandis que maintenant, il va chez le médecin, il dit j'aurais de l'Actifelt, l'Actifelt lui dit je vais vous faire une ordonnance, mais en vertu du principe de précaution. Et comme vous risquez ensuite, si vous aviez un accident, vous héritiez de me faire un procès, je vais d'abord vous envoyer dans un laboratoire où on va faire un examen complet pour voir si vous pouvez supporter l'Actifelt. Donc on va faire une machine à effet Doppler pour voir si les vaisseaux résistent, etc. Donc déjà, il y a à peu près 5000 francs d'examen. Ensuite, une fois que les 5000 francs d'examen ont été remboursés, il faut retourner chez le médecin pour obtenir l'ordonnance, ça fait une deuxième visite, et puis ensuite on va à la pharmacie où on achète l'Actifelt, enfin le nouvel Actifelt qui lui coûtera plus cher, et donc...
En cabale phonétique, l'Actifelt c'est un acte de foi.
Oui, ben exactement, voilà. Donc gardez vos rhumes. puis essayer, comme disait Victoria, un peu de rhum avec de l'eau chaude, hein, du sucre et
un demi-citron. Bon, oui.
Du miel, d'ailleurs, pas du sucre, du miel.
Du miel.
Et un demi-citron, c'est beaucoup. Ou alors un médicament homéopathique, oxylococcinum. Si ça vous fait pas de bien, ça pourra pas vous faire de mal. Moi, j'aime beaucoup les...
Si t'arrives à le prononcer, c'est déjà que tu vas mieux.
C'est qu'on a moins de fièvre. J'aime beaucoup les médicaments homéopathiques. Il y en a un en ce moment qui fait beaucoup de publicité, qui s'appelle la coculine. Je sais pas ce que ça soigne, mais...
Ça soigne des insolations. Je crois. Il me semble que c'est les coups de soleil, non, ou les gratouilles provoquées par le soleil.
Ça soigne les cornes.
Non, mais la coculine. Non, mais vraiment, genre, bah, voilà, donc il y en a un, en tout cas qui n'aura pas besoin ni de coculine ni d'actifète, c'est le regretté Mustapha Saïd. Donc vous savez tous ce qu'il sait, c'est un jeune médiateur. Dans son boulot de médiateur, ça consiste à se mettre entre les deux parties. Ben là, il s'est mis entre les deux parties, mais au mauvais moment. Et donc il a essuyé une bastos et il a été rectifié pour le compte, ce qui est bien triste. Mais moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que j'ai lu absolument tous les articles qui sont passés là-dessus, y compris dans la presse, dans la Voix du Nord, la presse de province, puisque c'était un Lillois, c'était un Arnois de Arne, dans le Nord, Mustapha Saïd. Et tous les articles nous disent que le Arnois Mustapha Saïd a été rectifié par un gang, en s'interposant entre deux gangs, des gangs de Lillois et d'habitants de Losses-les-Lilles.
Des Bretons et des Bourguignons.
Ou des Lossiens, je ne sais pas comment on dit. Et on a le nom de Mustapha Saïd qui est mort héroïquement d'une balle dans le dos, mais on n'a pas le nom des deux Lillois, Lossiens qui l'ont rectifié.
Pourtant, ils ne sont pas mineurs.
Et en plus, ils auraient double raison d'être mineurs. Parce qu'à Losses-les-Lilles, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part chômeur que mineur, hein? Eh bien, ils sont même pas mineurs. Alors je dis, pourquoi n'a-t-on pas le prénom? Moi, je pense que c'est du racisme, je vais vous dire. Je crois qu'ils s'appellent Jean-Édouard et Charles-Émile Victor. Et on ne dit pas leur nom. Ça, c'est purement et simplement du racisme. Parce que le résultat, c'est que les gens comme moi qui ont l'esprit mal tourné, ils pensent qu'ils s'appellent Rachid ou Kamel. Bien évidemment, si on ne dit pas le nom. Et en fait, c'est encore plus vicieux que le simple racisme qui consiste à cacher que ce sont des on nous dit que c'est des Lillois. Moi, je connais pas beaucoup de Lillois qui s'appellent Kamel et Rachid, hein, faut bien dire.
Tu connais beaucoup de Lillois?
Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai.
Vous connaissez pas beaucoup de Lillois?
Mais je connais pas beaucoup de Lillois qui, enfin, j'ai quelques amis. Regardez Marc Dem, par exemple, il était pas Lillois, mais il était flamand. Dans la famille Marc Dem, il n'y a pas beaucoup de Kamel et de Rachid. Je pense pas, hein. Bon, moi, les Flamands, ils s'appellent... Comment ils s'appellent, les Flamands? Comme tout le monde, Marcel, Robert...
Jacques.
Jacques. Georges. Voire même Georges. Tout est possible. Donc, je dis, attention, danger, racisme. Racisme à double détente, parce que, premièrement, on cache que ce sont des Lillois et des Lousiens, et deuxièmement, on tend à laisser imaginer que ça serait des jeunes. Alors que c'est peut-être des vieux flamands. Hein? Voilà. Il y en a un autre qui a plus besoin de phényléthylamide, c'est le jeune qui a fait un malaise, parce que ça s'appelle un malaise maintenant, au cours d'une rave partie. C'est-à-dire quand vous envoyez 12 pilules d'ectasie et que vous clamsez, c'est un malaise, c'est pas une overdose. Donc, il faut savoir que un toxicomane maghrébin qui meurt d'une overdose, ça se dit un jeune qui fait un malaise. Il faut apprendre à parler le langage, d'ailleurs maghrébin ou africain, ou même Lillois. Même Lillois. Hein. Donc c'est un jeune qui fait un malaise. Tandis que...
Ça rappelle le dialogue d'Audiard où il fait une distinction savante, tu sais, entre la litote et l'euphémisme.
Oui.
Le quoi, je t'expliquerai.
Oui, c'est ça, je t'expliquerai. Voilà, et donc tout ça... Alors ce qui est très drôle, là encore, il y a une espèce de méchanceté des gens contre le pouvoir actuel. Parce que... On a il y a quelques semaines, là, il a été question de réglementer les rave parties. Voilà. Maintenant, d'ailleurs, on nous explique qu'il ne faut pas dire des rave parties, il faut dire des free parties. Alors, la Gay Pride est-elle une free party? Je pose la question. Qu'est-ce que la Gay Pride? Est-ce une free party?
Et quand est-ce qu'on parle français en France, là?
Mais pourquoi on parlerait français? Il y a de moins en moins de français dans ce pays. Je ne comprends pas pourquoi on s'emmerderait à parler une langue que plus personne ne pratique.
Tu as un parti free contre toutes ces choses, c'est absolument inadmissible.
Je ne sais pas si on est frit, mais je crois qu'on sera bientôt cuit. Alors.
Mais non, tu seras en Toscane, moi je serai à Grenade.
Ah, mais oui, bien sûr.
Et nos amis seront en Roumanie, et voilà, et vous serez au ciel.
On finira parler dans des pays civilisés à force. Ouais. Mais.
Il en reste.
Oui, oui, il en reste. Alors, donc, on nous a expliqué que les raves parties, il n'y avait pas de raison d'embêter les jeunes et tout. À partir de ce moment-là, pratiquement toutes les semaines, il y a un ou deux morts dans une rave partie. Ils tombent comme des mouches. Ils arrivent même de tomber des toits. Hein? D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils pouvaient foutre sur le toit. C'est... Enfin, bref. Donc, c'est ou overdose, enfin, pardon, malaise, ou chute verticale. Alors, je ne connais pas beaucoup de chutes horizontales. Mais... Et comme si, on voulait, comme si les jeunes avaient, par mauvais esprit simplement, envie de démontrer au gouvernement qu'il a eu tort de ne pas vouloir réglementer les rave parties.
À moins qu'il y ait des provocateurs infiltrés par Berlusconi pour pousser ces jeunes à la mort.
C'est Haider, Berlusconi, voilà, et peut-être même autres. Le Pen, va savoir.
Ouais,
c'est,
ouais. Non, on n'ira pas jusque-là quand même.
Non, quand même pas, n'exagérons pas. Mais à mon avis, c'est un coup d'Haider à Berlusconi pour démontrer que le système socialiste n'est pas n'est viable que quand il est en plus national. Et alors, ce qui est encore plus rigolo dans ces histoires de rave party, c'est qu'en même temps, il y a en France un déchaînement, un vrai déchaînement, je sais pas, moi je lis toute la presse donc j'ai remarqué ça, contre les gens du voyage. Et alors c'est étonnant parce que les maires, il y avait un maire qui était interrogé là hier sur une radio périphérique et suburbaine et qui expliquait que il n'était absolument pas question. C'était, je crois, M. Godefrain qui expliquait qu'il était... D'ailleurs, il s'est fait casser la gueule. Là, ça arrive, vous voyez. C'est quand même un métier. On ne prend pas que de l'argent dans la politique. Il y a des moments où on prend des marrons aussi. Et alors, il est...
Des fonds secrets.
Il est allé voir... des fonds secrets. Et il est allé voir un groupe de gens du voyage qui s'était installé indûment sur un terrain non autorisé. Et il leur a expliqué qu'ils n'avaient rien à faire ici. Et apparemment, les mecs n'ont pas pratiqué comment on dit maintenant, le langage des fleurs ou le politiquement correct. Ils lui ont mis une bonne danse. Et alors, la version officielle des journaux, c'est rigolo, c'est M. Godefrain a été blessé en défendant les gens qui l'accompagnaient. C'est héroïque, quand même. Il défendait ses gardes du corps contre l'agressivité des gens du voyage. Mais ce que je voudrais qu'on m'explique, c'est... Pourquoi, quand il y a une rave partie, il n'y a pas un maire qui va dire aux jeunes, maintenant, vous allez gicler? Et pourquoi, quand c'est des gens du voyage, alors là, ils viennent tous en roulant les mécaniques pour dire aux gens du voyage, il faut partir?
C'est peut-être parce qu'on n'aime plus la Garta.
Moi, je crois que c'est parce qu'ils ont peur pour leur poule. Parce que les jeunes, dans les rave parties, ils veulent pas les poules. Ils les apportent avec eux. Mais ils prennent pas les poules du coin. Tandis que les gens du voyage, on ne sait pas. On peut pas lancer d'accusation parce que ça serait incorrect.
On peut en croiser aussi.
Mais le bruit court quand même qu'il y a.
On peut en croiser aussi qu'ils parlent beaucoup de religion, les gens du voyage. Et ça
s'appelle
pas beaucoup.
Bien sûr, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'ils font leurs grandes manifestations pour des motifs religieux. Alors, s'ils disaient c'est une rave partie, c'est pas une évangéliste partie, ça irait beaucoup mieux. Hein. Voilà, c'est tout. Et maintenant, il y a la question du couvre-feu qui m'a frappé aussi. C'est intéressant, on l'a déjà dit, mais je reviens à cette idée de couvre-feu parce que c'est quand même extrêmement intéressant de voir qu'il y a des maires de communes, encore une fois suburbaines et périurbaines, qui décident qu'à partir de 13h, à partir de 13 ans, ou plutôt à partir de 10h du soir, les enfants de moins de 13 ans ne pourront plus circuler dans des quartiers où de toute façon aucun flic ne met les pieds après 6h du soir. Donc maintenant je voudrais savoir, une fois que vous avez, messieurs les maires, une fois que vous avez pris cette décision, vous avez dit, là, les quartiers sont interdits aux enfants de moins de 13 ans à partir de 10h du soir. Comment allez-vous faire appliquer cette loi? C'est ça qui m'intéresse.
Peut-être que le réseau échelon va y veiller.
Alors voilà, la solution c'est de mettre une puce aux enfants que ils ont déjà des poux, on peut leur coller des puces, ça changera pas grand chose. On met une puce aux enfants et on les repère. Dès qu'il y a un enfant de moins de 10 ans, moins de 13 ans qui se balade la nuit, on envoie, ça c'est l'avantage de la guerre des éclairs, il y a un satellite qui envoie un rayon laser et qui le caramélise. Ça c'est l'ordre bien compris. Autrement, faire des lois qu'on peut pas faire appliquer, c'est bête quoi. C'est pratiquement discréditer la loi. Or, franchement, en France, en ce moment, je sais pas si la loi a vraiment besoin d'être discréditée.
Hein? Une puce sur un cafard, qu'est-ce que ça va donner?
Alors maintenant, dernier sujet, le mondialisme. Là encore, je ne comprends pas très bien. Ils organisent le G8, G7 plus 1, à Gênes. Or, Gênes, que j'ai le bonheur de connaître, c'est probablement une des villes les plus inextricables de l'hémisphère nord. C'est un enchevêtrement extraordinaire de ruelles, de souterrains, de passages couverts. Lyon, par exemple, c'est une ville lumineusement cartésienne à côté de Gênes. Et, alors, ils font ça à cet endroit-là, et après, il faut qu'ils empêchent des centaines de milliers de militants antimondialistes de venir. Mais attendez, d'où ils viennent, ces gens-là? Qui leur paye le voyage? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que ça serait très simple de dire, tiens, on va profiter des vacances de Chirac, on va faire le G7
à l'île Maurice.
À l'île Maurice.
À Brégançon.
À Brégançon, oui, l'avantage, c'est que Brégançon, on ferme, on fout le feu et on est débarrassé. Mais à l'île Maurice, par exemple.
Au Royal Palm Hotel.
Au Royal Palm Hotel. 25 000 balles la nuit. Plus les marchands de tapis qui viennent devant et qui vous fourguent des tapis à 500 000 balles en liquide. Ça vaut pas le coup de s'en priver, hein. Surtout quand on sait d'où vient le pognon. Ça serait bête de... En plus, la République a besoin de tapis. Donc, on s'est compris. Donc, pourquoi ne pas faire ça à l'île Maurice? L'île Maurice, c'est facile à boucler. C'est facile d'assurer la sécurité, voire aux Seychelles. Il y a plein d'endroits. Moi, je verrais bien les Kerguelen, d'ailleurs. Hein? Et ils font ça à Gênes, donc c'est de la provocation. Et le gag final de tout ça, c'est que ils démontrent par leur attitude que la raison pour laquelle ils sont là est mauvaise, puisque pour lutter contre le danger de la présence des antimondialistes à Gênes, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont suspendu les accords de Schengen. Autrement dit, c'est des mecs qui se réunissent pour imposer la libre circulation des hommes et des produits dans le monde entier, la suppression de toutes les frontières dans le monde, à terme. Et la première chose qu'ils font pour se réunir, c'est qu'ils rétablissent les frontières autour de chez eux. Alors, il ferait mieux de dire carrément, écoutez, à partir de maintenant, il y aura deux espèces humaines, enfin deux, mettons trois, quoi, parce qu'il y en a déjà deux, mais il y aura donc trois aspects de l'humanité, un aspect supérieur qu'on connaît, qui existe déjà, un aspect inférieur qui est tout le reste, et puis un aspect supérieur, qui est d'ailleurs en général un extrait de l'aspect supérieur évoqué plus haut, et qui sera, lui, alors absolument intouchable. Ils auront des villes dans lesquelles on ne pourra pas rentrer. Quand ils seront sur une autoroute, on arrêtera la circulation. Quand ils se promèneront en avion, on arrêtera la circulation aérienne. Ils auront des goûteurs, parce que naturellement, tout le monde va essayer de les empoisonner. Depuis le temps qu'ils empoisonnent le monde, c'est la moindre des choses.
Et des batteries de missiles.
Et des batteries de missiles autour d'eux, et des Robocop partout autour pour liquider les contestataires. Et c'est vrai que, notamment, la loi antiraciste permettra quand même de faire beaucoup de ravages parmi les contestataires, puisque dans peu de temps, dès qu'on va insulter un chef de gouvernement ou un chef d'État, on va pouvoir être poursuivi pour racisme. Ça va être pratiquement automatique. Donc, moi, je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est assez irrationnel, leur comportement. Vous voyez? Enfin. Voilà, ça, c'était pour Gênes.
Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de
problème. Eh ben voilà, j'attendais que quelqu'un le dise. Merci, Nicolas Bonnet.
Je me suis abaissé à...
Vas-y. Non, parce que c'était vraiment le premier qui dégaine a perdu. On attendait qu'il y en ait un qui
dégaine.
Il n'a pas pu tenir.
C'est le jeu des chaises mobiles.
C'est comme aux échecs. Il y a toujours le moment où il faut avancer une pièce et on attend que l'autre fasse la bêtise. Voilà. Des messages intéressants? Non.
Ne dites pas rêve parti ou rave parti, mais délire parti. Et à propos de ces manifestations, ce sont les tarés qui y vont, nous dit cet auditeur.
Les tarés.
Drogué depuis longtemps. Quand il a été question de les interdire, on a entendu les socialistes dire « Non, non, il ne faut pas nous couper de nos électeurs. » Conclusion, ce sont les tarés qui votent PS.
Oui, moi j'avais pas besoin de ça pour le savoir. Mais...
Ah. Et puis alors pour les médicaments, tiens, naturellement j'ai dit des bêtises comme d'habitude. Bah... La coculine. Votre chère coculine.
Oui, la coculine,
elle
c'est contre le mal de mer.
Les maux de cœur.
Ben oui, c'est pour ça.
Exactement, les nausées.
Oui.
Les nausées en voiture et ailleurs. Et non, pour les coups de soleil, scandale.
Mais pourquoi ils ont appelé ça coculine? C'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'on baptise un médicament comme on veut. On peut
mais
appeler
non,
ça.
Mais non, c'est parce que c'est l'origine de la molécule. Ça fait bien de dire ça. Et puis alors, donc, quelqu'un nous dit, ils défendent les médicaments. Je travaille, non, les décisions. Je travaille dans un cabinet médical, et c'est vrai qu'il y a eu des accidents avec le Fervex.
Oui, mais moi, j'ai connu, j'ai un ami qui travaille dans les ascenseurs. Il y a aussi beaucoup d'accidents avec les ascenseurs. C'est pas pour ça qu'on interdit les ascenseurs. Genre, si un jour le Fervex ou l'Actifed tue autant de personnes que l'automobile, on interdira l'Actifed. Je remarque simplement qu'on n'interdit pas l'automobile. L'automobile, c'est 10 000 morts par an, quand même. Je crois pas que l'Actifed tue 10 000 personnes par an.
Et un autre auditeur nous dit, personnellement, j'ai testé Actifed, et c'est vrai que ça provoque des hémorragies, mais seulement en cas d'utilisation prolongée.
Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, l'Actifed provoque des hémorragies chez les gens sujets aux hémorragies.
Est-ce que vous, dans les malheureux qui se sont fait abattre, là, donnez-nous des précisions sur ce pauvre SDF.
Et voilà encore, là,
qui
on
a
sait
été
pas.
Tué par trois agresseurs.
Par trois jeunes, trois. Et on, pareil, on n'a pas de nom. Alors ça, c'était à quel endroit?
On a le nom du SDF qui a poignardé près de Mont-de-Marsan les deux Finlandaises.
Ah oui, mais parce qu'il s'appelle Marcel Bourdaillou.
Oui, il s'appelle quelque chose Fauché. Ouais.
Oui, c'est ça.
C'est un Blade Runner et ils l'ont pas raté.
Donc là, on peut donner son nom, ça gêne personne.
Que pensez-vous, que pense Serge de Becatch à propos de la libre distribution de la pilule du lendemain à des adolescentes, à l'insu des parents et peut-être au lendemain des raves parties.
Je vais vous dire la vérité, je ne me sens pas tellement concerné. Je ne pense pas que ça soit dans notre milieu que ça se fasse. Moi, je ne connais pas de jeunes filles qui vont dans des raves parties. Je connais pas de jeunes filles qui ont besoin de la pilule du lendemain comme ça. J'en connais pas, je dis pas que ça existe pas, mais j'ai pas l'impression que ça soit très courant chez nous. Donc je dirais que c'est un peu comme certains produits médicamenteux utilisés dans des circonstances parallèles. Je suis pas absolument contre. Je trouve que ça ou par exemple les rodéos automobiles, je suis assez pour aussi, je trouve ça. Ou alors ce qu'on avait dit, tu sais le fameux film là où ils sautaient de toit en toit.
Matrix.
Yamakasi.
Non, mais les
Yamakasi.
Yamakasi.
Oui,
je suis assez pour
c'est
ça.
C'est très bien, Yamakasi. Il y en a 8 qui se sont plantés.
Voilà, c'est ça. Ça participe à la sélection naturelle.
Voilà.
Donc, comme je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'élèves de Saint-Michel, par exemple, je parle de l'école de la fraternité qui participe à des opérations Yamakasi, ça ne me gêne pas trop. Voilà, c'est tout.
Il n'y a plus besoin de repeindre les passages cloutés.
Et vous avez dit
une économie pour la collectivité.
Voilà.
Exactement.
Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez parlé de Mitterrand. Eh bien, cet auditeur nous dit on n'en a rien à faire de Mitterrand. Parlez-nous plutôt de l'extension de la violence qui n'est pas du tout, pas seulement une histoire de drogue, comme on dit.
Non, mais l'extension de la violence. En fait, alors je peux en parler parce que je vais faire le prochain numéro du Libre Journal, une partie du Libre Journal. Imprimé sur ce sujet. Il y a une thèse qui vient de sortir qui est extrêmement intéressante et c'est assez bien démontré.
Thèse suisse.
Oui. Qui explique que la violence, c'est le moyen que les démocraties libérales ont trouvé pour assurer le travail que dans les pays totalitaires, la police politique effectue. Autrement dit, quand on n'a pas de police politique pour terroriser les gens et pour les obliger à se tenir à carreau, on fait faire ça par des gangs ethniques, des gangs de voyous et par la violence urbaine. Et les gens ont peur. L'essentiel, c'est que les gens aient peur. Il faut arriver à faire peur. Et je dis toujours que le problème, quand on dit, mais pourquoi les Français se laissent-ils faire? Pourquoi ne réagissent-ils pas? Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilisation, etc.? Je dis, je répète, parce que les gens ont plus peur que mal. Le jour où ils auront plus mal que peur, ils descendront dans la rue. Donc ils n'ont pas encore assez mal. Ils ont encore plus peur. Peut-être qu'un jour viendra où ils en ont ras-le-bol d'avoir mal et où ils n'auront plus peur. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et ils préfèrent se faire arnaquer, voler, dépouiller par les gangs ethniques, par les parasites sociaux, par les envahisseurs, par les sans-papiers, les sans-logements, les sans-domicile fixe, les sans-vergogne, les sans tout ce que vous voulez, par le fisc, par les taxes, partout, quoi. Et ils préfèrent ça, et puis garder leur petite sécurité, rester bien au chaud et pas avoir d'ennuis. Mais il y a un moment où ça va cesser.
Ça va cesser,
c'est sûr.
C'est vieux comme la démocratie, hein. Donc je sais pas si ça va cesser, parce que Thucydide en parle dans la guerre du Péloponnèse. de clans comme ça qui se mettent et qui répandent une espèce de terreur en observant, en épiant les autres, en répandant l'insécurité, notamment au moment de la dictature des 30.
Ça a toujours existé, mais ça n'a pas toujours duré. C'est-à-dire, il y a toujours eu des endroits dans le monde où ça se passait, mais il y a eu des moments où les gens ont réagi, quoi. Les peuples ont réagi. Il y a quand même, je pense qu'il y a au fond de l'âme des peuples une espèce de ressort comme ça qui peut se détendre à un moment. Mais enfin, pour l'instant, en France, visiblement, le ressort est légèrement rouillé. Hein. Ça, c'est absolument certain. C'est quand on voit ce qui se passe. Quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit, on est bien content de penser ce qu'on pense. Voilà. D'autres choses, d'autres réflexions aussi intéressantes que celles-là.
Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi ces bandes ont brûlé les voitures à Aulnay?
Mais ça, c'est un mystère. Pourquoi ils brûlent les voitures à Aulnay?
Oui. Il y a une théorie. Il y a une théorie qui veut qu'en fait, ce soit du nettoyage ethnique.
Oui, ça joue certainement. Ça joue certainement.
C'est-à-dire c'est la purification à l'envers.
C'est de la purification ethnique. C'est vrai que le pauvre Gaulois dont la seule fortune, c'est sa 305 qu'il brique tous les samedis matins, quand il se lève et qu'il voit la 305 réduite à l'état de tas de cendres, on comprend qu'à un beau bout d'un moment, il décide de foutre le camp.
Ah, c'est ça.
Mais on le voit d'ailleurs, on voit très très bien que les zones d'occupation sont de plus en plus étendues et surtout que les zones de peuplement gaulois sont de plus en plus loin des centres. Moi, l'autre jour, j'étais invité à dîner par un ami, ils sont allés habiter Senlis. Ils travaillent à Paris, ils sont habités Senlis. Et quand on leur demande pourquoi ils sont allés habiter Senlis, ben ils disent parce que tout simplement, dans Paris, on ne peut pas, c'est trop cher, et dans la banlieue immédiate, on ne peut pas tenir,
c'est pas
possible. Donc c'est une forme, effectivement, d'épuration ethnique.
Ouais. Il y a une double vitesse. Il y a la vitesse de leur agrandissement propre, et puis il y a leur capacité à faire fuir.
Mais alors, il y a un phénomène quand même qui est étrange, parce que ça, il y a cette dimension, mais il y a aussi, par exemple, les agressions contre les pompiers, les agressions contre les médecins. Ouais, c'est-à-dire, là, il y a un syndrome du chien enragé qui se mord ses plaies.
En plus, ils le faisaient pour empêcher des pompiers qui sauvaient la vie de quelqu'un. Ils n'étaient pas là pour éteindre un feu qui ne dérangeait personne.
Ouais.
Là, ce n'est pas un feu qui mourait sur lui-même, il mourait sur la vie de quelqu'un.
C'est très très étrange. Ça.
C'est ce que je disais tout à l'heure à Nicolas. Je crois que ces gens-là répètent sans le savoir leur propre génie. Ils ont un génie à la razzia, ils ont un génie à la désertification autour d'eux. Et ils le fabriquent. Pour avoir, avec d'autres personnes, pas mal voyagé dans les pays de l'Est, on a vu des blocs, j'ai vécu dans des blocs dans les pays de l'Est, plus vieux et plus mal construits que nos blocs français, dans un état fleuri. 40 ans après, fleuri, encore fleuri.
Mais on regardait l'autre jour avec ma femme un film qui se passe dans le Paris des années 50, donc la crise du logement, etc., où on voyait des gens qui vivaient, des familles entières qui vivaient dans les chambres de bonne. Eh bien, il y avait une bonne entente, visiblement. Enfin, on sentait que l'ambiance était plutôt bon enfant, ambiance ouvrière, où on chantait, on écoutait la radio, on écoutait la famille du raton. À l'époque, c'était un feuilleton amusant, la famille du raton, à la radio. Il y avait des choses comme ça. Et,
aujourd'hui aussi.
Oui, mais c'est moins drôle. Maintenant, c'est Love Story, la famille du raton. Ce qui montre d'ailleurs, c'est vrai, à quel point on a évolué quand même, et pas dans le sens du bien. Et donc, à l'époque, on pouvait vivre dans une situation de promiscuité qui était certainement plus difficile que maintenant. Mais maintenant, il y a un autre phénomène que la promiscuité. C'est la promiscuité enragée. C'est la haine, la véritable haine. Pas la haine de classe, la haine de race. Là, c'est tout à fait clair. On le voit dans les injures que ces gens-là nous jettent. J'ai un ami qui est en train de préparer un travail sur les effets dissuasifs ou pas de la détention. De l'incarcération. Et donc, il voit beaucoup, beaucoup de détenus. Et il me dit que la quasi-totalité des détenus d'origine étrangère, qui ont des papiers français, lui disent « Mais nous, la France, on n'en a rien à foutre. Mais rien à foutre. On n'est pas français, on n'aime pas la France. On a des papiers, mais on s'en fout de la France. Et quand on sortira, on recommencera. » C'est extraordinaire. Ils ont un visiteur de prison qui vient leur dire qui vient essayer de vérifier si l'incarcération a des effets positifs ou négatifs. L'incarcération, apparemment, elle a des effets nuls, c'est-à-dire ni négatifs, parce qu'ils ne peuvent pas apprendre plus de mal qu'ils en savent déjà, ni positifs, parce qu'ils n'ont absolument pas la moindre intention de s'amender, ils ont, au contraire, l'intention de reprendre leurs activités immédiatement. Et d'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? Il a rencontré un gars qui est un dealer, qui a pris, je crois, 2 ans de prison ferme. Il lui dit... Moi, je gagnais 300 000 francs par mois. 300 000 francs par mois. 30 millions de centimes par mois. En trafiquant de la cocaïne et de l'héroïne. Et quand je vais sortir, je vais recommencer. Tu crois pas que je vais me mettre au RMI? Alors, bien sûr, il était au RMI en plus. Mais ça fait partie de la couverture sociale. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, pourquoi on va parler de Mitterrand? Eh bien, je reviens à ça. On va parler de Mitterrand parce que, d'abord, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet qu'on n'a pas fini d'explorer parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est en grande partie le fruit d'un double septennat de Mitterrand. Et parce que le personnage est un personnage très, très étrange et qui a une dimension surnaturelle, métaphysique, hein, que Nicolas Bonnal a... étudié en profondeur dans un bouquin que je recommande, et je suis pas le seul à le faire. Je crois que c'est un livre qui pour une fois, semble être bien distribué et semble bien se vendre.
Oui, je suis vendu entre les pots de yogourt et les bouteilles de shampoing, et c'était mon idéal d'écrivain.
Ben voilà, c'est ça.
Donc, j'en ai pas d'autres.
Non, mais c'est bien. L'essentiel, c'est d'être présent dans les supermarchés.
Exactement.
Enfin, si c'est entre les pots de yogourt et les bouteilles de shampoing, c'est quand même que le gars qui fait la mise en place dans le
grand magasin... Non, c'est entre Stephen King et...
Ah voilà, ça c'est mieux déjà. Entre Stephen King et comment elle s'appelle
Marie Jean Clark.
Oui, c'est ça. Bon. Donc, ce livre s'appelle Mitterrand grand initié, et alors il prend un parti.
C'est un remake, hein. Les gens de Radio Courtoisie le savent.
Oui,
on avait fait une émission il y a 7 ans sur ça, et puis on m'a demandé de refaire ce livre. Donc Albin Michel m'a demandé, et alors il faut éviter de se répéter, et surtout que le premier livre était. En le relisant, je l'ai trouvé quand même assez bon, mais ça partait dans beaucoup de directions. Alors, il fallait trouver un certain nombre d'éléments d'appoint qui ont été donnés au cours des années 90 par les révélations successives sur le passé de Mitterrand, qui ont été donnés aussi par le culte qui s'est constitué autour de sa personne et qui m'a frappé au moment de sa mort. Et là, il y a tout un axe important que j'ai mis dans mon livre, qui est l'axe du New Age, enfin du Nouvel Âge, de l'âge nouveau, de l'ère du Verseau. Et la société dans laquelle on évolue actuellement, qui est une société, comme on dit aujourd'hui, de réseaux, de spiritualité parallèle, de tirage de tarot, d'astrologie, et de médecine également parallèle, rejoint assez les dérives particulières de François Mitterrand.
Alors, le départ du bouquin est étonnant parce que ce livre commence par une réflexion, une enquête littéralement sur les liens de Mitterrand avec la tradition gauloise,
oui.
Avec le passé gaulois de la France. Et alors, est-ce que tu peux développer un peu ça?
Oui, alors ça, c'est des excursions qu'on fait avec Antoine.
Antoine, c'est Antoine Binet qu'on a entendu brièvement tout à l'heure et qui est restaurateur en Bourgogne.
Voilà. Et donc, on s'est aventuré à Château-Chinon, on s'est aventuré sur le Mont Beuvray. Et moi, j'ai eu une espèce d'émerveillement, de fascination totale pour ce très haut lieu où Mitterrand a fait construire un musée de la civilisation celtique qui est une très belle réalisation archéo-futuriste. Donc effectivement, on est en plein étrange jeté, parce que d'un côté, on a un homme qui a amené la France au bord du chaos, même s'il n'a pas été le premier. Je pense qu'on en avait parlé une fois. Ça démarre avec Pompidou.
Oh, ça a même commencé un petit peu avant le chaos en France.
Ouais.
Ça a 2 bons siècles.
Hein. Non, ça a 2000 ans, mais...
Oui, c'est là qu'on diverge.
Ouais, ben c'est l'âge de fer. Non. Et puis de l'autre côté, il y a un homme qui est fasciné par la tradition, je pèse mes mots, primordiale hyperboréenne, qui fait un rattachement initiatique entre la terre gauloise et la terre égyptienne, et qui, dans le cadre de ses grands travaux ou de certaines de ses réflexions, donne une vision magique qui, rappelle Rège, évoque évidemment Jean Faure et la France mystique avec cette triade que décrivait Jean Faure dans son livre entre la France, la Grèce et l'Égypte.
Alors, ce qui,
Mitterrand,
ce qui
l'Égyptien, c'est très clair. Et
alors là, il y a
Gaulois
cette dimension,
aussi.
On va en parler.
On
mais
en parler.
Ce qui est frappant dans ton livre, c'est que tu ne te contentes pas de dire ben voilà, c'est ça, c'est une idée que je propose, c'est une voie de réflexion sur un personnage qui a quand même dominé l'histoire de France pendant 15 ans. Et pendant plus de 15 ans d'ailleurs, parce qu'en réalité, il l'a vraiment dominé pendant 15 ans, mais il l'a infesté, on peut dire, pendant pratiquement un demi-siècle. Donc ça mérite qu'on s'intéresse un peu à ce personnage. Et donc tu ne te contentes pas d'émettre une opinion, tu apportes des tas d'éléments. C'est à ça que je voudrais que tu viennes. Par exemple, il y a l'histoire du fameux tombeau de Bibracte. Il avait acheté une parcelle de terre pour se faire faire un tombeau sur le mont Beuvray à Bibracte. Et puis, la nouvelle en a été... l'information a été publiée. Et curieusement, il a renoncé, apparemment en tout cas. Et dans ton livre, tu laisses entendre que c'est pas vraiment un renoncement. Comment tu expliques cette attitude, cette espèce de pas en arrière qu'il a fait?
Alors,
est-ce qu'il avait vraiment l'intention de se faire inhumer à cet endroit-là, ou est-ce que c'est une espèce de cénotaphe qu'il a voulu créer?
Quand on voit ces scribes qui l'ont approché, donc Laure Adler, Roger Hanin ou évidemment Georges-Marc Benhamou, on voit très vite qu'ils le considèrent eux-mêmes comme un roi gaulois, et que donc à Bibracte il y a un lieu de rassemblement des tribus gauloises. Donc chez lui il y a une volonté de confédération qui va, et il dit d'ailleurs dans une interview télévisée sur une cassette que j'ai, je m'incorpore à la terre de France. Donc on est en plein Excalibur, hein, une terre, un roi, on est dans l'idée d'une terre du Graal, même contaminée par l'histoire du sang du même nom. Et chez Mitterrand, il y a cette volonté. Alors soit il a reculé pour mieux sauter et se faire enterrer, parce que à Jarnac, le mot est mal choisi quand même pour enterrer quelqu'un. Et soit il a préféré ne pas provoquer, et il s'est contenté de son petit tombeau. Mais là, il faudrait aller fouiller les tombes pour le savoir, et il y en a d'autres qui le font, mais je ne m'adonne pas à ces pratiques.
T'es pas au renseignement généraux ?
Non, voilà. Je suis au renseignement généreux, moi.
Ce lien avec la Gaule, il lui vient, enfin avec la tradition gauloise, il lui vient de très très loin, puisque les premiers textes qu'il a faits...
Il écrit des textes, comme on dirait chez nous, très mythaux, dans les années 40, dans la revue de l'État Nouveau. Il évoque son pèlerinage en Thuringe, il a un rapport organique à l'Allemagne très fort. On sait qu'il a rencontré plusieurs fois Junger, même. Il a rencontré des écrivains comme Michel Tournier, qui sont également enracinés dans les mythes. Alors tout ça, moi je l'avais découvert quand tu m'avais demandé un article il y a déjà une dizaine d'années sur ce sujet-là, uniquement en lisant La paille et le grain et L'abeille et l'architecte, dont les titres ont évidemment déjà des connotations ésotériques, y compris évidemment Ici et maintenant. Et puis quand on le voit évoquer les splendeurs solutréennes ou même Vézelay et d'autres hauts lieux et le Beuvray aussi, il parle de l'équerre du Mont Blanc qu'il arrive à distinguer du Beuvray, et on assiste chez lui aussi à des espèces d'émerveillement presque de druidique, d'extase face à des paysages. Alors là je reviens d'Allemagne du Nord, justement on a fait un petit pèlerinage sur non pas en Thuringe mais en Saxe, et ensuite dans l'île de Rugern, là où Caspar David Friedrich peignait ses fameux paysages romantiques. Et chez Mitterrand il y a une espèce d'adoration mystique pour le paysage et pour la terre. C'est pour ça qu'il disait également « je m'incorpore par rapport à cette terre française ». Et lui, il pensait, il le dit aussi, que l'immigration, elle finirait par se faire en France parce que le génie de la terre était le plus fort. Bien que cette terre, tu le sais, se couvre de territoires protocolaires, parce que qu'on enracine quelqu'un sur une terre, je veux bien, mais on l'enracinera difficilement sur un parking ou dans une grande surface, la bien nommée. Donc, enfin, lui pensait ça, en tout cas. Donc, il avait une conception très haute du caractère initiatique et tellurique de la terre française. Et donc il le répète maintes fois dans ses livres, et sa volonté d'être enterré au Mont Beuvray montre que pour lui il y avait une mission venue de loin dans ce domaine. Alors, D'où vient-elle cette mission? Moi, le seul élément que j'ai pu trouver qui rattache Mitterrand à une espèce d'ordre initiatique, sans aller dans les délires Rennes-le-Château de la Méridienne qu'on va évoquer, mais par rapport à un ordre initiatique, c'est donc la chaîne d'Antoine Mauduit pendant la guerre. Donc c'est un homme, un héros, qui a été d'ailleurs fusillé par les Allemands, qui était un nationaliste, qui était un catholique, et qui a voulu donc régénérer la France en instituant une espèce d'ordre médiéval qui se réclamait du génie éternel de la patrie. Mitterrand en a fait partie. Il parle plusieurs fois à propos de cet homme d'un rayonnement. Donc on est en face d'une personnalité qui a une spiritualité supérieure, qui l'a marqué durablement. Et Serge Klarsfeld lui-même dit que c'est cet homme qui aurait éloigné Mitterrand du vichisme vulgaire et l'aurait amené vers une vision aérienne de la France qui pouvait être sauvée contre l'occupation allemande et non pas collaborer avec l'Allemagne.
Ce qui est étrange chez Mitterrand, enfin, il y a une dimension chez Mitterrand, une appétence, une curiosité pour le culte, pour le secret, pour le caché, pour le mystère originel, etc. Et à chaque fois, il va un peu comme un homme ivre, on a l'impression, il titube de centre d'intérêt en centre d'intérêt. Il est cagoulard. Et puis, il est en même temps lié avec des milieux comme la chaîne de Mauduit, avec des organisations, des ordres, on pourrait presque dire des ordres initiatiques comme la chaîne. Et puis, il y a aussi la dimension, alors, très bassement matérialiste, du personnage qui veut faire du fric, qui veut avoir des postes, qui veut devenir une personnalité. Et c'est assez étrange ce mélange de tendances, ce mélange de pulsions.
C'est étrange au premier degré, ça l'est moins au deuxième ou au troisième. Je veux dire par là que Mitterrand, ça correspond à une grosse époque de corruption, on est tous d'accord aujourd'hui pour le dire. Le gaullisme immobilier aussi, et pourtant De Gaulle se réclame de sa Champagne éternelle, de la France éternelle. Il y a également une grosse époque de corruption au moment de l'affaire Fouquet, donc liée au masque de fer. Il y a une grosse époque de corruption avec les Templiers, c'est-à-dire que les affaires de corruption cachent des manipulations ésotériques plus savantes. Je reprends toujours cette très chère expression de l'ancien ministre de Clinton, Robert Reich, les manipulateurs de symboles. Ben, les symboles, c'est le pognon, on est bien d'accord, puisque symbolon, c'est une pièce en grec, mais c'est également, évidemment, quelque chose de beaucoup plus mystique et de beaucoup plus magique que cela. Donc ça ne m'étonne pas, si tu veux, même si ça paraît paradoxal, que alors qu'il y a un désastre sur le point de vue moral et du détournement de fonds. De l'autre côté, il y a une espèce d'approche panique, comme tu le dis, ou un peu ivre de l'initiation. Ça va souvent ensemble.
Et en même temps, il y a encore une autre dimension, c'est la conviction d'appartenir à une caste supérieure, en tout cas différente, et donc supérieure. Et ça, chez Mitterrand, c'est très très sensible, parce qu'il y a le mépris, une espèce de mépris attendri, de mépris compatissant pour le peuple, mais il y a un mépris total. Dans le fait même d'accepter la corruption comme il l'a accepté, même de l'encourager et de la pratiquer, c'est un acte de mépris absolu à l'égard du peuple, c'est-à-dire qu'importe l'exemple qu'on donne au peuple, parce que évidemment, le caractère, la corruption des élites, évidemment, elle dégouline tout de suite sur le peuple et elle rend le peuple ingouvernable, puisque le brave Clampin, il dit mais moi je vois pas pourquoi je ferais le moindre effort pour payer mes impôts, pour me conduire d'une façon honnête, alors qu'on a au pouvoir un Chirac qui s'offre des voyages à 250 briques en piquant dans la caisse de l'État. Il n'y a aucune raison que je sois plus honnête que le président de la République. Oui. Donc si je peux piquer dans la caisse de la boulangerie, je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Donc il y a un effet ravageur de cet exemple de corruption qui est donné au grand jour, qui est affiché.
Là, on va toucher à un autre point qui est plus important, qui est celui de la fin de la République, hein, parce que c'est quand même comme ça que je commence le livre. C'est une succession de révélations susceptibles de faire quand même sauter la République. Donc, en énonçant de tels caractères de corruption, en décourageant les gens à ce point par rapport aux idéaux républicains tels qu'ils ont pu être véhiculés à l'époque de la Troisième République, qui chacun sait était une époque d'une honnêteté scrupuleuse dans tous les domaines, de Panama à Stavisky en passant Parmesan. Donc, et là, on arrive à un trop-plein qui fait que peut-être les gens sont disposés à revenir à quelque chose de peut-être plus traditionnel. Cependant, il y a deux éléments. Tu disais, il démotive le peuple. Oui et non. Moi, j'ai connu assez de gens pauvres, de gens de gauche, des débuts des années 80, qui avaient été quand même enchantés par la réforme de l'époque, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient la vie dure avant, ils l'avaient moins avec Mitterrand. Et donc, chez lui, il y avait cette volonté régalienne d'être généreux et de récompenser les gens autour de lui. Et quand on le voit même par rapport au...
Oui, mais pas de récompenser les vertus.
Non, c'est un monarque de la fin des temps. Hein. Ouais. On est parfaitement d'accord. Il est là pour annoncer quelque chose peut-être. Il est là aussi pour précipiter le déclin d'un système putréfié et tuméfié. Hein. Mais il y a quand même cette volonté de préserver les petits. Et puis il y a cette volonté aussi, disait Laura Adler, de célébrer les bandits. Mitterrand n'aimait pas les hommes d'affaires, les banquiers, les puissants, les gros énarques, mais il aime bien les magouilleurs, il aime bien les petits escrocs. Donc il a mis en place des gens comme Tapie, comme Pella, il y a eu l'affaire Vibrachoc étudiée par ton camarade Montaldo. Il y a tout un tas de choses qui font que il avait une espèce de malin plaisir à se moquer, c'est son côté satanique si on veut, mais qui le rend presque sympathique à certains égards, encore une fois au troisième degré, de dire, bon, eh bien... le système, c'est d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Ben, je vais enrichir certains pauvres. Donc un tel que j'ai connu dans un camp de prisonniers, je vais en faire un milliardaire. Tel autre qui est un aventurier et qui a un parler populiste, je vais également le faire monter dans la société. Et finalement, c'est un peu le même service qu'il a rendu à Le Pen à l'époque, quand il lui a permis de se faire connaître du grand public. Et il s'est dit, tiens, encore un voyou de la droite, et je vais également le faire monter. Donc il y avait une espèce...
Moi, je ne partage pas cette analyse. L'histoire de... Je ne crois pas du tout que ce soit Mitterrand qui ait assuré la promotion de la droite nationale en France. Ça, c'est une analyse qui me paraît trop rapide et trop facile.
C'est pas la seule.
On a été là en présence d'un phénomène de soupape. C'est une histoire de cocotte minute. Hein. La tension était telle qu'il y a un moment où il y a une soupape qui a pété en quelque sorte, et les gens les plus insupportés par la crapulerie du système ont dit bon, et ben maintenant on se manifeste. Et d'un seul coup, il y a eu comme une espèce de concrétisation d'une réalité diffuse en France qui était la réalité de la droite nationale. Oui. Ils n'ont rien pu faire pour l'empêcher. S'ils n'avaient pas donné la parole à Le Pen à la radio ou à la télévision, ça aurait pété autrement. Les gens étaient tellement, tellement, tellement excédés. Et en fait, ça a permis... D'une certaine manière, ça a eu un effet de catharsis, et ça a été comme une saignée, en fait. Ça a apaisé le corps social pendant un moment, et maintenant on est en train de recommencer, parce que l'absence de la droite nationale, du fait de ces divisions dans le débat politique à l'heure actuelle, ajoutée à la situation catastrophique du pays... relativement à l'immigration, relativement à la sécurité...
Relativement à tout, Serge, parce que...
Ça va provoquer de nouveau un effet cocotte-minute. Alors comment ça va se résoudre, ça, on n'en sait rien. Mais
On a déjà dépassé le déficit budgétaire promis pour 2001 au mois de mai. Donc on va arriver vers 300-350 milliards avec une possibilité de récession qui serait l'équivalente de celle qu'on a connue à l'époque Bérégovoy-Cresson en 92-93. Donc c'est vrai que l'année prochaine promet d'être passionnante. Alors là, encore, est-ce qu'il y aura un troisième homme face à l'austère qui se marre et aux Corréziens qui voyagent, je ne sais pas.
Alors, pour en revenir à Mitterrand, un auditeur nous dit « Faites attention, j'ai déposé quelque part des archives sur Mitterrand, elles ne seront consultables qu'à partir de 2060 pour éviter des problèmes graves à mes descendants. C'est très dangereux de dire la vérité sur Mitterrand. » Je ne sais pas si c'est dangereux, moi. Enfin, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour dire certaines vérités, en tout cas celles que je connaissais. On a publié il y a maintenant 16 ans un numéro du Crapouillot qui s'appelait Mitterrand très secret, dans lequel on a tout révélé sur Mitterrand. Toutes les révélations qui ont été reprises ensuite et développées par Péan, par la journaliste qui avait fait le
Catherine Ney.
Elles étaient dans le Crapouillot. Oui.
Mais écoute,
avant le Crapouillot, le RPR avait fait une information en 80. Je l'avais lu à cette époque-là. Je sais déjà de la politique. Ils avaient parlé de la vie de Mitterrand. Ils avaient même donné son numéro de.
Ça, ils n'avaient pas de panne à le dire. C'était dans le dictionnaire de la politique de Coston, oui, qui avait été publié dans les années 50.
Oui. Le RPR l'a dit à une époque. C'est...
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il l'ait dit à cette époque-là.
Oui, alors que la photo avec Pétain, Roger Frey l'avait en 1965 et De Gaulle s'est opposé à ce qu'elle paraisse. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est pour les 20 ans de Mitterrand, Le Monde a ressorti le numéro du 12 mai 81. Et il y avait un article de Raymond Barillon qui parle de la Francisque. Et ce qui est curieux, c'est qu'ensuite, ils ont fait semblant d'oublier totalement ça pendant des années. Alors là, on est en pleine dans les manipulations médiatiques étranges, mais qui sont énormément grossières, mais qui reposent sur le fait que les gens vivant dans un présent perpétuel, on ne va pas parler de métaphysique avec les territoires protocolaires, mais on pourrait, les gens vivant dans un présent perpétuel, si on ne leur parle plus de quelque chose pendant 2 semaines ou 3 ans, c'est comme si cette chose n'avait jamais été. C'est Tol Sadoum à Conan, si, tu n'existais, si je n'existe pas, tu n'aurais jamais été.
C'est ça. Alors, donc, à propos de Mitterrand, on a parlé de, on a évoqué sa passion pour la terre gauloise, pour, et notamment, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il est allé dans le Morvan, pourquoi il est allé dans la Nièvre, pour s'agglomérer à la terre de France, alors que c'est pas son territoire d'origine, son territoire d'origine, c'est la Charente.
Et c'est dans des endroits très épargnés, qui sont remarquables. Alors, ce qui est amusant, au niveau de toutes les petites connexions symboliques que j'avais pu noter sur le bonhomme, Antoine, par exemple, qui était allé à Jarnac, a vu que le méridien de Greenwich passe par Jarnac et que c'est écrit. Et puis, dans sa circonscription, il y avait 153 communes. Et c'est extravagant parce qu'avec lui, on trouve toujours quelque chose comme ça. Et alors, par exemple, ils ont, parce que bon, les gens se disent, oui, on connaît tout ça. Non. Il y a un géant dont je parle dans le livre qui est le géant d'Outreau. Alors, ils ont construit un immense Mitterrand géant de jardin, dans une commune du Pas-de-Calais.
C'est vrai.
Ils ont construit à Latch un bâtiment, enfin pardon, une statue avec Mitterrand et son chien. Et le commentaire de la statue est en des termes maçonniques, avec le carré, le pas, le bâton de pèlerin. Donc j'ai tout un développement aussi sur les bâtons de Mitterrand. Donc c'est un personnage. Aussi, on a parlé récemment dans une commune près de Versailles d'une statue en bronze de Mitterrand, très légère, un peu un mobile de caldaire. Et puis ils ont fini par l'enlever parce que le maire nouvellement élu de droite ne voulait plus qu'il y demeurât. Donc si tu veux, il a essaimé dans tout le territoire, comme le petit poussé, des signes, des pierres. Et puis c'est à nous de les décrypter. Et ce qui m'a fait réagir, moi surtout en 2000, un an avant le coup du platane, c'est la méridienne verte. Parce que là, on est en pleine extravagance. Cette méridienne verte avec le camping sauvage du 14 juillet avec des nappes Vichy, donc c'est amusant. Donc mis en place par notre camarade Paul Shemtov, qui porte le nom donc, d'un grand kabbaliste médiéval, et qui est un des architectes qui me plaise beaucoup parce qu'il a dit une fois, s'il n'y avait pas eu la crise du pétrole, nous aurions rasé Paris parce que nous devions appliquer les consignes de Pompidou. Et bon, ils n'ont pas pu le faire parce qu'à l'époque, la France, heureusement pour nous, a commencé à manquer d'argent. Et donc, il conçoit la méridienne verte. Donc, ils veulent rassembler toutes les essences d'arbres. On connaît un peu le système. Là, en arrivant à Paris, là, par le territoire protocolaire du Sud, on tombe sur la méridienne, porte d'Orléans. Et donc, ça passe évidemment par Rennes-le-Château. Ça part donc du Nord, ça va au Sud. Et puis, il fallait planter des arbres tout le long de cet axe. Moi, j'en ai parlé avec Jean Faure, que je suis allé voir à l'hôpital il y a quelques mois avant de quitter Paris, et la France d'ailleurs. Il m'en a dit plutôt du bien. Il le voyait ça d'un bon œil, bon, que la terre française se réconcilie avec ses arbres et qu'on invite le peuple à fêter une espèce de fête de la fédération. Et là, ça rejoint donc une intuition qu'avait eue notre autre camarade Bernard-Henri Lévy en 1996, lorsqu'il dit Mitterrand est un carbonaro et nous allons avoir beaucoup de salves d'outre-tombe. Et là, je me suis dit, flûte alors. Quelle salve quand même. 4 millions de personnes attendues. Il faisait mauvais comme en ce moment. Donc, on en a eu 2 millions de personnes attendues le long d'un axe, le méridien, basé sur le long du méridien de Paris. Et les médias toujours aussi fascinants qui n'expliquent pas ce que c'est que le méridien de Paris, alors que même Hergé l'a fait. Donc évidemment, j'explique cette histoire du méridien et de méridienne avec ça, en posant la question, effectivement, est-ce que c'est un méridien qui est lié au méridien royal de Louis XIV qui passe donc par l'observatoire, et comme par hasard, il y a eu un attentat de l'observatoire, ou est-ce que c'est un méridien républicain qui est là donc pour célébrer une France réunie autour d'une bonne table, comme au moment des repas maçons des années 1846-47. Donc là, il y a une ambivalence, mais qui existe vraiment chez Mitterrand, parce que autant il a eu un comportement très royal ou monarchique, autant en même temps, il était très républicain, et on a vu d'ailleurs où ça...
L'impression que ça donne par moment, l'impression que donne son action et ses comportements, c'est que s'il avait voulu dégoûter catégoriquement les Français de la République pour Milan, il n'aurait pas agi autrement.
Oui.
On a l'impression que il a fait un boulot de, d'écœurement, en disant voilà, la République c'est ça, c'est cette espèce d'immondice, de marigot grouillant d'ordures, de vieux cloportes, de vieux crocodiles racornis et tout. Et puis voilà, vous avez le spectacle, et maintenant il y a autre chose de possible. Et il n'était évidemment pas investi, je ne pense pas qu'il était investi d'une mission sacrée quelconque pour faire revenir le monarque, mais. Peut-être qu'il l'a pensé, lui, peut-être qu'il a cru ça. Et dans ton livre, il y a alors ça, un aspect qui est totalement stupéfiant, alors, c'est l'histoire de ce rapport avec l'Égypte, qui est constant, qui est même par moments presque grotesque, tellement il est ostensible.
Oui, on a eu le fameux séjour à Soin avec l'hôtel Old Cataract.
Ouais.
Et donc il y a cette homonymie entre l'Égypte et la Gaule que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis il y a cette photo stupéfiante qui a été montrée donc au Canard Enchaîné à l'époque, François-Olivier Gisbert, à Thierry Pfister depuis, de Mitterrand comme sosie du pharaon Séti Ier. Et là, les gens peuvent dire, bon, bonal délire une fois de plus, bon, bonjour la gnose.
Bonjour la gnose. Ami de la gnose, bonsoir.
Mais non, mais regardez dans n'importe quel livre sur les pharaons, Séti Ier, il y a des gros livres chez Maxi Livre, il y a de plus petits livres à la FNAC. Vous regardez Séti Ier, c'est Mitterrand. Alors là-dessus, bon, il y a le bouquin, j'ai dit que c'était le fruit d'un travail d'équipe, ce qui d'ailleurs est vrai, hein, je ne m'en cache pas. Il y avait des spécialistes de l'architecture, des spécialistes du méridien, des spécialistes du contournement des frontières, et des spécialistes des délires ésotériques, donc il fallait que tout ce monde-là s'accorde. Donc on met Séti Ier, c'est le père de Ramsès, et Ramsès serait une préfiguration ou quelque chose qui serait lié au grand monarque, ou en tout cas, comme tu disais, à la fin de la République, avec cette idée que la France est au bout du rouleau. Elle est au banc des nations, ça on s'en rend compte quand on voyage, on trouve que tous les pays voisins sont paradisiaques, sont charmants, sont 100 fois, 1000 fois mieux que la France. Les Français ne le savent pas, ils le savent quand même un peu, puisqu'il y a 600 000 personnes qui sont parties depuis 6 ans. Antoine, là, qui était allé aux États-Unis cet hiver, me disait qu'il y avait 25 000 Français installés à Miami seulement. Ouais. 300 000 ou 400 000 à Londres, le consulat prétend qu'il n'y en a que 60 000, c'est risible. Les restaurants sur toute la façade ouest océanique ne trouvent plus personne pour servir parce qu'ils sont partis en Irlande, en Grande-Bretagne, voire ailleurs.
Il faut également dire aux parents, n'envoyez pas vos enfants à Londres si c'est pour leur faire apprendre l'anglais, parce qu'à Londres, on ne parle plus le français.
Oui, on parle plus tellement, oui. Oui, ouais, là, il y a un petit problème. Oui, c'est les grandes vacances de Funès, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ça s'est interverti, et les Anglois sont parmi nous et vice-versa. Bon, donc là, il y a un vrai problème du destin qui va de la France, parce que là, c'est vrai qu'on arrive à un bout du rouleau total et que Mitterrand était une espèce de rouleau compresseur qui a précipité le cours déjà chaotique de l'histoire française.
Bon, l'impression qu'on a aussi, c'est que le destin de la France aujourd'hui, le destin sacré de la France, ou le destin secret aussi de la France, c'est le destin d'Israël. La France, si on accepte l'idée, qui est une vieille idée, hein, conforme à l'affaire de l'ascendance davidique des rois de France, si on accepte que la France est le nouvel Israël, que c'est l'Israël de la nouvelle alliance, et qu'on lui applique le fameux avertissement divin qui a été donné à Israël, peuple à la nécrède, chaque fois que n'obéiras pas à ton Dieu, tu seras puni. Et l'histoire d'Israël en témoigne, et bien l'histoire de la France en témoigne de la même manière. Et on a l'impression que ce sont des punitions vigoureuses qui sont données à un peuple rétif, un peuple rebelle et à un peuple avili.
Alors, sauf que concrètement, les Juifs ont toujours beaucoup plus souffert que les Français. Et que le problème de la France,
ah, je parle pas de...
Termine juste, c'est que ça rejoint T.S. Eliot, c'est ainsi que le monde se termine, pas dans un boom, mais dans un pleurnichement. Et j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt un pleurnichement en
les
France.
Les hommes ont changé.
Un pleurnichement médiatique avec une masse coagulée devant le Loft Story. Là, c'est plutôt inquiétant et ça correspond pas aux punitions divines telles qu'elles ont été décrites par la Bible et vécues ensuite par le peuple élu.
Mais le fait est que à l'heure actuelle, on a l'impression que si on lit l'histoire du peuple élu dans la Bible et qu'on compare avec l'histoire de France récente, oui. On a vraiment l'impression qu'il y a des correspondances, des résonances tout à fait étonnantes.
C'est dommage, là, je te l'avais fait lire, je n'ai pas ce texte sous les yeux de Judith, lorsqu'elle parle justement à son peuple avant d'aller décapiter Holoferne, et qu'elle dit « Si nous acceptons notre destin, non seulement l'ennemi nous maltraitera, mais il nous méprisera et nous n'aurons rien mérité de mieux. » Et alors là, effectivement, ça correspond bien à ce que la France vit actuellement, c'est-à-dire qu'elle est maltraitée par des gens qui la méprisent, en France comme à l'étranger. Parce que c'est une diplomatie qui est à l'encontre des intérêts traditionnels de la France qui se sont développés depuis le premier millénaire, finalement, dans le cadre du Kosovo, de la guerre du Golfe, de que sais-je, c'était aberrant et grotesque. Et toute l'hostilité par rapport aux orthodoxes, l'hostilité par rapport au catholicisme, tout ça, donc, donne de la France un destin relativement pathétique. Hein, c'est...
Mais, ce qui est,
mais moi, je trouve qu'elle est...
C'est pas la France qui est coupable de ça. Ce sont des gens qui occupent la France et qui infestent la France comme une maladie honteuse et qui, avec la complicité des collabos français, parce que c'est ça le drame de notre pays. Le drame éternel de notre pays, c'est qu'il est sans arrêt souillé par des gens qui ne font pas partie du tissu national, et il est avec la complicité de gens qui n'ont plus de ressort et qui s'abandonnent à la cochonnerie, à la souillerie et tout. On voit bien, le français moyen, on sait bien que les gens sont... Par exemple, la gay pride, la banalisation ou la normalisation de l'homosexualité ostensible, affichée, c'est quelque chose qui révulse les Français. Mais personne n'ose le dire, parce qu'il y a une vulgate politiquement correcte, il y a une espèce de règle qui interdit de le dire, et maintenant on dit exactement le contraire. On en arrive à des publicités qui disent, par exemple, je ne sais plus quelle société d'assurance, nous assurons aussi les hétérosexuels. Donc là, on est vraiment dans le délire provocateur répugnant, et les gens acceptent ça. Normalement, cette boîte d'assurance, elle devrait être boycottée totalement, dès demain. La suppression de tous les contrats.
Mais c'est là qu'on rentre, Serge, dans le domaine du New Age, de l'ère du Verseau, de la rupture avec l'ère chrétienne et de la reprogrammation, parce qu'en France, quand même, cette reprogrammation a commencé en 1789. Moi, je reste toujours épouvanté à tel point, d'ailleurs, je ne lis jamais de livres sur la Révolution française. Du jour au lendemain, on a un peuple bimillénaire qui détruit toutes ses églises, qui extermine ses prêtres, qui extermine et chasse ses élites, qui devient cannibale.
Mais ça s'appelle c'est une hubris, ça.
Oui.
D'un seul coup, le peuple est en proie à l'hubris. Alors, folie furieuse.
Ça repose un problème. Est-ce qu'il y a plusieurs races en France, les narbonoïdes dont j'ai déjà parlé, ou les néandertaliens, et puis un peuple européen, et les deux s'opposent. Et le peuple néandertalien ou narbonoïde, ben, c'est le peuple qui est tout le temps en grève, qui est tout le temps échevelé, qui est tout le temps dans les gay pride ou dans les rêves parties.
C'est ça.
C'est le peuple qui travaille un jour sur huit quand il est dans la ponction publique et qui parle de mes droits ou mes soins, puisque maintenant la moitié de la France vit de la redistribution des biens, et c'est-à-dire de ce qui a été confisqué à ceux qui travaillent, et elle ne pense qu'à se soigner, à ses soins.
Là, c'est la vieille lutte des néandertaliens contre les Cro-Magnons. Ouais. En réalité, et c'est la vieille histoire des cagots. La différence, c'est que pendant des siècles, les cagots ont été considérés comme des êtres à tenir en lisière, à éloigner des centres des villes. Ils avaient leurs églises réservées, par exemple. Et que maintenant, c'est les cagots qui tiennent le haut du pavé.
C'est amusant que tu parles des cagots, parce que tu sais que les cagots se reconnaissaient notamment un signe distinctif qui était la cagoule, et qu'à Paris, ils se réfugiaient à la Cour des Miracles. Et Paris est devenue une gigantesque Cour des Miracles. Celle qu'a très bien commenté Philippe Meret dans toute son œuvre contre la société festive. Et là, bon, c'est un problème qui fait qu'il est difficile, quand on revient d'Espagne, comme je le fais, ou d'Allemagne, ou d'autres pays, où on sent quand même qu'il y a encore un peuple, un véritable tissu national, même si tout ne va pas parfaitement. Mais en France, on se dit, on n'a pas d'autre choix qu'une guerre civile terrible qu'on a déjà vécue 10 fois, et apparemment pour pas grand-chose, hein, de la Saint-Barthélemy au reste, hein, puisqu'on parlait de Vézelay a été quasiment rasé par les protestants, qui ont rasé quasiment tous les chefs-d'œuvre du catholicisme à cette époque. Et on se dit, bon, faut-il encore tuer tous les gens? Et moi, maintenant, je suis quand même plutôt partisan de prendre mes clics et mes claques.
Hein. Alors, on va y venir à ça, mais avant, je voudrais donner la parole aux auditeurs, il y a des messages.
Oui.
Alors, allez-y donc.
Est-il exact...
Alors attendez, sur Radio Courtoisie, je reçois Nicolas Bonal, Antoine Binet qui est restaurateur en Bourgogne et Arnaud Dufay qui est Arnaud Dufay. Ça c'est un nom qui fleure bon le vrai terroir. Hein.
Être ou ne pas être.
Voilà. Arnaud Dufay qui est grand voyageur, on peut dire.
Oui.
Voilà.
Pour M. Bonal, à quoi correspond le groupe Les Enfants du Méridien dont vous parlez dans votre livre Mitterrand, grand initié?
C'est juste quatre copains et moi, je rassure tout le monde. C'est pas une société secrète à laquelle j'appartiens.
Est-il exact qu'il y a des photos de Mitterrand défilant derrière des pancartes à bas les métèques et qu'il venait de l'extrême droite?
Mais
comment
bien sûr,
définir l'extrême droite?
Elles sont... non, mais à l'époque, les photos, elles sont dans le crapouillot en question. Mitterrand très secret.
Même dans le Péan, on peut trouver ça facilement.
Il y a dans le Péan aussi, mais enfin, c'est moi qui, nous qui avons sorti dans le crapouillot pour la première fois. Ouais. Et on a même publié la lettre que le supérieur de l'école chrétienne dans laquelle Mitterrand avait fait ses études envoyait aux anciens élèves et aux parents des élèves, et dans laquelle il est dit « Nous avons reconnu l'ami François dans une manifestation d'étudiants. » On voyait sa photo à la une du journal, je crois que c'était L'Œuvre, je ne sais quoi, et effectivement, il y avait donc une réunion d'étudiants, notamment des étudiants en médecine auxquels Mitterrand s'était joint avec quelques autres qui se réunissaient sous des pancartes à bas les métèques. C'était une manifestation qui appelait au numerus clausus dans les études médicales, et puis c'était l'histoire de, enfin c'était à l'époque de Talamas,
bien sûr.
Voilà, donc la photo existe, on peut la trouver, on peut la voir, elle a été publiée de nombreuses fois.
Renseignements pratiques, pouvez-vous redonner les références du livre dont vous parlez?
Le livre, c'est Mitterrand grand initié, qui est paru aux éditions Albin Michel. Vous le trouvez partout. À la FNAC, on propose des piles, les grandes surfaces en proposent, comme tu l'as dit, des paquets entre le dernier Stephen King et le livre de Madame M, je ne sais quoi.
M.H. Clark.
M.H. Clark, voilà.
Est-il exact qu'il y a des photos... Non, je l'ai déjà dit. Sur Ici et Maintenant, on arrive tant bien que mal à dire des choses, ce qu'on ne peut faire nulle part ailleurs. Sauf à Radio Courtoisie, non? Ah non, parce qu'on parle à Ici et
j'ai
Maintenant.
Pas, je m'excuse, j'étais en train de lire un autre message, j'ai pas entendu.
Sur Ici et Maintenant, on arrive tant bien que mal à dire des choses, ce qu'on ne peut faire nulle part ailleurs.
Oui, je sais pas. Ça existe encore Ici et Maintenant? Je croyais que ça n'existait plus.
Il paraît qu'il y a une fréquence à côté de Radio Courtoisie. On nous a dit.
Ça a été supprimé Ici et Maintenant.
Que pensez-vous de Monsieur Michel Tournier?
Non,
il n'a pas d'opinion sur la question.
Il est important, Tournier, quand on rapproche son œuvre de toutes les histoires actuelles de pédophilie. Et quand on voit Vendredi, puis surtout, évidemment, le Roi des Aulnes ou les Météores, cette espèce d'hypostasie de la fonction initiatique de l'enfant qui, aujourd'hui, est recyclée par les sectes pédophobes en France. Et bon, ça représente une espèce d'ésotérisme de mai 68 qui a poussé, c'est le moins qu'on puisse dire, assez loin nos bouchons.
Pourriez-vous nous donner des éclaircissements sur les rapports de Mitterrand et de la famille Plantard?
Ah, alors, non, mais bon. Évidemment, à Vézelay, il y a un vieux bonhomme qui a fait une histoire du tympan. Et puis, tu sais qu'à Vézelay, sur le tympan du narthex, tu as les grandes oreilles. Alors là-dessus, tout le monde réplique et dit, ouais, les grandes oreilles, c'est que les Templiers étaient là en Amérique, donc ils ont vu les fameux Incas aux oreilles longues, les Orejones, et puis voilà. Puis comme chacun sait, les Templiers sont aussi allés sur la Lune. Et IBM, ça veut dire Jacobus Burgundis Molenins, puisque c'est Jacques de Molay réincarné qui a créé IBM. Donc pour en revenir...
C'est mieux de le savoir.
Voilà, je préfère que les gens le sachent.
Il faut que les gens le sachent.
Je pense que les gens doivent savoir que IBM est tenu par les Templiers, que Microsoft est tenu par les Temples Illuministes, et qu'en fait, il y a 22 bâtiments... de Microsoft, dont seulement 21 sont visibles.
Ah ouais.
Alors tout ça, c'est des choses que je sais, je les raconterai peut-être un jour, si on me torture. Si on me torture. Donc pour Rennes-le-Château et cette histoire, Plantard, apparemment, a le passé trouble.
À Plantard, il faut quand même dire en deux mots ce que c'est. C'est la famille qui revendique l'héritage des Mérovingiens.
Voilà.
Et donc, revendiquant l'héritage des Mérovingiens, il s'appuie sur le trésor des Visigoths qui est enterré à Rennes-le-Château, comme chacun sait également.
Et que tout le monde a trouvé.
Enfin, à commencer par la Bessonnière, qui en a profité pour faire construire des choses extrêmement
laides. Parce que par rapport à Mitterrand, là, il a eu un dernier élément qui a fait scandale et que j'ai repris, c'est l'affaire Courcelles. Donc le protecteur de Mazarine au musée d'Orsay et de sa maman, Anne Pinjot, est devenu responsable du département en protection et sécurité pendant 4 ans. Et donc, à l'extrême gauche, on s'est posé beaucoup de questions, dont moi, pour savoir si il n'y avait pas là une continuité avec Mitterrand qui voulait se constituer une garde prétorienne avec le département protection et sécurité. Et je parlais de Courcelles parce qu'il m'a dit, très gentil, mais au chômage, en dépit du trésor de Rennes-le-Château, donc qui se consacrait à la recherche du dit trésor là-bas. Voilà.
Il y a eu, il y a une semaine d'ailleurs dans le Figaro, je crois, un article expliquant que il y avait des équipes allemandes, américaines et israéliennes qui étaient à Rennes-le-Château pour faire des recherches et qu'on avait vu arriver une équipe du Vatican dirigée par une très belle femme qui avait dit « Nous sommes là pour détruire tous les objets qui pourraient sortir des caves de Rennes-le-Château ou des souterrains de Rennes-le-Château. » Alors, si ça avait été dans un journal, je sais pas, ici Paris, où j'aurais pas fait allusion à ça, mais dans le Figaro, c'était quand même assez surprenant comme lecture. Avec la Lara Croft du Vatican qui vient pour menacer les services spéciaux israéliens, américains et allemands. On est vraiment... Alors, il y a un imbécile de service qui nous dit amignostique, bonsoir, vous ne dites que des banalités ressassées. Ben ça, c'est pas une banalité ressassée. Je crois que peu de gens en ont parlé de cette histoire de Lara Croft du Vatican.
Mais le Vatican est dans l'œil du cyclone. J'ai assisté à une conférence de Saba, celui qui a fait le livre sur l'origine égyptienne des Hébreux. Et il disait justement que Champollion aurait peut-être été tué par le Vatican. On est près de Corriche, et donc le Vatican, on le sait,
c'est salaud
toujours.
Vatican.
Ouais,
ouais. Ce qu'il faut comprendre, je voudrais essayer de faire comprendre ça à certains,
qu'on est en plein mécanisme,
certains auditeurs,
dans tous les camps,
qui s'indignent de qu'on puisse évoquer ces sujets. Le fait d'en parler, ça ne veut pas dire qu'on adhère, ça ne veut pas dire qu'on y croit. Ça veut pas dire... On en parle parce qu'il faut comprendre que dans le monde apparemment mécaniciste où nous vivons, dans le monde métallique où nous vivons, dans le monde binaire où nous vivons, il y a plein de gens qui pensent et qui agissent en fonction de ces références-là. Et dont leurs actes politiques, leurs œuvres littéraires, leur œuvre politique, leur comportement quotidien est lié à ces considérations. Et on ne peut pas comprendre ce qu'a été Mitterrand pendant 15 ans si on n'a pas présent à l'esprit cette dimension du personnage. Si on se contente de croire que c'est un politicien retors et corrompu, on n'a rien compris, on ne pourra jamais rien comprendre au personnage. De même, si on se contente de croire que Chirac est un imbécile, on ne comprend rien au personnage. C'est vrai que c'est un imbécile, c'est absolument indiscutable. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a chez lui une dimension profondément malfaisante. C'est un être très très profondément ténébreux et très cochonné de ténèbres. Et quand on sait ça, quand on sait pourquoi, quand on sait d'où ça vient, eh bien, on comprend beaucoup. Quand on sait dans quel mensonge il est né, dans quelle folie étrange, tordue, il a vécu quand il était enfant et tout, on comprend beaucoup mieux. Enfin, on a des moyens, on a des armes pour comprendre ce qu'il fait aujourd'hui et l'espèce de comportement erratique qu'il a, totalement imprévisible, totalement incompréhensible, avec des poussées d'adrénaline, des mouvements de colère, des reculs brutaux, des prosternations devant les puissants. Voilà, si on ne sait pas ce qui s'est passé dans la guerre, il ne faut pas essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Mitterrand l'a dit lui-même dans La paille et le grain, il faut aller plus loin que l'apparence. Et puis c'est tout ce qu'on fait, il n'y a pas de...
Voilà.
D'autres questions.
Mitterrand était-il des vôtres? Était-il gnostique?
Il est des nôtres. Voilà. Et je suis... Enfin bon, je ne vais pas répéter ça parce que j'en ai marre. Le prétendu gnosticisme, c'est une curiosité pour une... Je répète quand même, c'est une curiosité personnelle pour une réalité sociale. Ça existe. Fermer les yeux à ça, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Accuser les gens qui s'occupent de ça, de participer à ça, c'est de la calomnie. Et je connais un ou deux calomniateurs qui, d'ailleurs, je le dis publiquement, auraient intérêt à porter des caleçons blindés, parce que le jour où je vais me foutre en colère, il va y avoir une distribution de coups de pied au cul public qui va être spectaculaire. Je sais deux ou trois personnes qui s'amusent à cacter à mon propos et à propos de mes amis des trucs qui sont répugnants. Alors, ils se prétendent catholiques, et catholiques de tradition, ceux-là, et il faudrait qu'ils aillent vite se confesser à leur curé favori, parce que je pense que ce qu'ils font, c'est une véritable cochonnerie. Donc, je dis une fois pour toutes, je suis un catholique traditionnaliste de stricte observance, je n'ai rien à voir avec ces milieux de merde garde que sont la gnose ou les gnostiques ou la franc-maçonnerie, etc. Rien du tout. Et je déclare véritablement la guerre à ceux qui essayent de faire croire que je participe à ce genre de truc. Parce que je sais que ça commence à circuler ou que ça continue à circuler et ça me court vraiment sur le haricot. Et on sait que je ne suis pas quelqu'un du genre à se laisser emmerder par n'importe quel chien coiffé pour des trucs pareils. Voilà, c'est bien clair, je pense. Hein.
Non, mais c'est
et
comme si
on... ceux dont je parle se sont reconnus.
C'est comme si on avait accusé au Moyen-Âge les dominicains d'être des hérétiques parce qu'ils étudiaient les œuvres des hérétiques pour les combattre.
Voilà.
Que dire ?
Alors, ici et maintenant, dont vous parlez tout à l'heure, a ressuscité il y a 2 mois environ. Elle émet sur 95.2. C'est l'ancienne fréquence de Radio Tour Eiffel. On peut y entendre notamment Jean-Paul Bourg et Patrick.
Ah, il est revenu.
Je n'étais pas au courant, ça fait 5 ans que je n'ai pas vu Jean-Paul.
Ouais.
Mais c'est la radio virtuelle. Moi, j'ai l'impression que c'est une radio de rock qui est à côté de nous.
Ouais. Oh, mais il y en a plus.
Je vais écouter avec attention.
J'ai relu son secret et magie de l'histoire de France. Il y a un passage intéressant sur la bataille de Labienus au Champ de Mars. Je me disais, Mitterrand, hein, pourquoi il est fasciné par le Champ de Mars? Pourquoi il y a ce grand travail maçonnique de Yvan Temer sur la Révolution et en même temps sur les différents âges cycliques? Et pourquoi il est mort, finalement, rue Frédéric Leplay sur ce Champ de Mars? Et dans le livre de Jean-Paul, il y a quand même un bel élément d'explication ésotérique, y compris par rapport à cet épisode de Mitterrand.
On le savait que vous étiez d'extrême gauche, mais ça ne fait pas de mal de vous l'entendre avouer. Y a-t-il d'autres endroits où vous faites de l'entrisme ? Je ne sais pas à quoi correspond ce message.
Oui, non, parce qu'il y a un moment où tu as dit à propos de Le Pen que Mitterrand était content de mettre en avant un voyou de droite. Alors il faut comprendre, quand, vous savez, des fois on dit des choses.
Il y a des guillemets.
Voilà, il y a des guillemets. Alors les guillemets, ça s'entend pas à la radio, mais il est évident que pour Mitterrand, Le Pen était un voyou de droite. Ça ne veut pas dire que pour moi, Le Pen est un voyou de droite.
Ceci dit, je suis vraiment d'extrême droite et j'ai écrit dans Charlie Hebdo sous le pseudonyme de Philippe Val.
De Philippe Val, oui. Et pour le reste, c'est le fond, non?
Oui, c'est ça. Je fais les dessins de Charb quand je suis en forme.
De Charb, pas de Char.
Oui, Charb.
Serge, faites attention. J'ai déposé quelque part, nous dit toujours.
Ah, ça y est, je l'ai lu déjà. Ça.
Vous l'avez lu pendant que j'étais.
Eh oui, 2060, je vais attendre, mais ça va être juste quand même. J'aurai 114 ans. Non, ça va, c'est bon. 114 ans, Madame Calment, elle a vécu jusqu'à 120 et des poussières.
Oui.
Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Serge Bouquet, c'est-à-dire moi-même. Je reçois Nicolas Bonal. Et on va, il nous reste 10 minutes pour évoquer l'Europe, carrément. Hein.
Oui.
Alors, tu es venu avec deux amis avec lesquels tu...
Je baroude.
Tu baroudes.
Le mot arabe qui signifie la poudre, ce qui ne signifie pas que je suis musulman, expliquez-le à certains auditeurs.
Ouais. C'est pas parce qu'il connaît le sens des mots arabes qu'il est musulman.
Ami de l'islam, bonsoir.
Alors, Antoine Binet, qui est, quand il ne se promène pas, restaurateur en Bourgogne, et Arnaud Dufay, qui est baroudeur, lui, alors, pour le compte. Et tu nous disais tout à l'heure. Alors, il y a une question que je voulais vous poser, à tous. Je pensais à ça ce matin en écoutant les informations. Enfin, depuis 3-4 jours, on est littéralement accablé d'annonces d'émeutes raciales ou d'émeutes ethniques dans les banlieues parisiennes, strasbourgeoises, rouennaises,
anglaises,
lilloises, etc. Et anglaises aussi d'ailleurs. Mais est-ce que ça se produit en Espagne, en Italie, en Allemagne? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est une spécialité?
Par exemple, j'étais à Alicante. Alors, le titre du journal local. Manchette, hein. Les Maghrébins contrôlent une partie du marché de la drogue au centre-ville, il faut les chasser. Donc c'est pas un tract du Front National local, c'est le titre du journal là-bas. Lorsque Berlusconi s'est fait élire...
Et c'est pas vrai d'ailleurs, il faut le dire, c'est pas vrai. C'est la presse espagnole qui dit ça, mais c'est pas possible.
Non, on est bien d'accord.
Qui est-ce qui pourrait prétendre une chose pareille?
Et en Italie, donc, lorsque Berlusconi a été élu, donc, ils ont commencé à haranguer tous les manifestants, parce qu'il faut le savoir, la gauche a essayé de casser le processus électoral en Italie en rendant impossible la tenue du vote dans les bureaux de vote. Hein. C'est pour ça qu'ils ont eu 2 ou 3 heures de retard. Les gens disent, ah ouais, les Italiens, c'est toujours le bordel.
Contrairement aux Américains.
Oui, contrairement aux Français. Allez-y pour voir. Mais alors là, la gauche a voulu saboter les élections. En tout cas, ils ont gagné. Et après, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, nous chasserons les immigrés. Donc ça, c'est le titre. Alors moi, ce que j'ai remarqué par rapport à l'Europe, c'est que nous qui passons ici, moi, en tout cas pour quelqu'un d'extrême gauche, mais toi pour quelqu'un d'extrême droite, à l'étranger, mais tu es un juif démocrate en Amérique, tu es un travailliste celte en Angleterre, tu es un conservateur social en Allemagne, et tu es quelqu'un du pôle des libertés en Italie. Ouais. C'est-à-dire que Serge De Becketch, qui passe pour un fou furieux en France, est un homme normal à l'étranger. Et j'ai fait cette merveilleuse découverte, et plus j'apprécie Serge, moi je le fréquente, puisque je suis obligé, pour l'apprécier, de vivre à l'étranger pour rencontrer des gens qui lui ressemblent.
Alors, dans cet étranger, quel est le pays qui a tes faveurs particulièrement?
L'Allemagne, parce qu'il y a quand même Pinmund.
Ah,
non.
Ouais.
Non, alors, moi je suis plutôt pour l'Espagne.
C'est une bonne base.
Oui, c'est une bonne base. C'est une bonne base de lancement de V6, V8 et de V6 en 66 pour mettre fin à la République. Non, moi j'ai une petite préférence pour l'Espagne, parce que Grenade, l'Alhambra, et Charles Quint est arrivé dans l'Alhambra, il a dit « ne touchez à rien ». Il a construit un superbe fort, mais il a dit « ne touchez quand même à rien ». Et là, il y a une espèce de magie dans le lieu qui est extraterrestre, sublime. Et là, un moment où, bon, on sent que le mot de tradition a une signification sublime. Et Charles Quint fait le reproche à certains braves à Cordoue, mosquée, d'ailleurs je le dis à l'intention de Chirac, qui est recouverte de svastikas. Je précise que svastika, parce qu'on va croire que je suis hindou, ça veut dire croix gammée, pas croix gommée. Et donc, qu'attend l'ONU pour bombarder, qu'attend l'OTAN pour bombarder la mosquée de Cordoue ou la mosquée de Cordée, il faut faire quelque chose. Voilà, bon, mais je vais laisser quand même parler les camarades.
On a plus beaucoup de temps, mais je voudrais savoir ce qui peut engager un restaurateur bourguignon à parcourir l'Europe comme ça. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ces explorations? Vous n'êtes pas bien en Bourgogne?
Mais c'est vrai qu'en France, comme disait Nicolas, on a l'impression de forcer sa nature pour penser raisonnablement, c'est-à-dire pour travailler normalement, avoir une vision de l'avenir comme on en avait une dans notre enfance, et on a l'impression que tout est un peu truqué, balisé. Mais alors il y a 2 éléments qui m'ont paru montrer la faiblesse de ceux qui nous dirigent en France, et c'est absolument illuminant à l'étranger. C'est d'abord qu'un Mitterrand, avec toutes ses faiblesses qu'on connaît, a réussi à tous les berner, alors que Mitterrand, lorsqu'on le voit, c'est quand même un gentilhomme de province avec un cerveau assez faible. Et d'autre part, toute l'Europe est plus saine, on y respecte ceux qui travaillent et ceux qui veulent élever leurs enfants. Alors la France est une exception, mais il paraît assez clair que elle peut cesser de l'être assez rapidement du fait de l'ouverture à l'Europe, tous ceux qui voyagent s'en rendent compte, et du fait d'une prise de conscience de la faiblesse intellectuelle et spirituelle et gnostique, tout simplement, de nos adversaires.
C'est rapide, mais c'est... Alors, l'ouverture à l'Europe, ça ne veut pas dire la noyade dans le magma européen.
Non, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une armée d'occupation bavaroise, piémontaise, catalane, écossaise, et on va dire des gens de Rostock, là, des poméraniens, pour que ça aille mieux, c'est tout.
Arnaud Dufay, vous êtes plutôt porté sur les pays de l'Est, je crois.
Oui, c'est un bain de jouvence. C'est un bain de jouvence. Ces gens-là ont dans l'esprit, dans leur spiritualité, 100 ans de bienheureux retard par rapport à nous. Le baise-main est quelque chose qui se fait dans le milieu ouvrier.
Ouais.
La politesse, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que nous, Français, en fait, nous, nationalistes français, nous sommes devenus cyniques, nous avons raison. Parce que nous voyons le mal qui leur arrive, ce qu'ils ne voient pas. Ces gens sont saints, mais ils ne le savent pas. Nous sommes pourris et nous n'arrivons plus à avoir cette force des gens saints. Tout à l'heure, vous parliez de ressorts. Il n'y a plus de ressorts en France. Le mal vient du manque de ressorts des nationaux, et non pas des gens qui, eux, n'ont pas cette éducation.
Alors, je regrette qu'on n'ait plus de temps. Je vous propose, il faudra revenir. On fera, là, on a parlé de Mitterrand, mais la prochaine fois, on fera une émission sur... La vie chez nos voisins, comment ça se passe et pourquoi ils ont peut-être un peu de chance d'être...
Oui, avec plaisir. Ils ont tellement de chance qu'on va les rejoindre. Ils auront encore plus de chance.
Nicolas, merci. Merci Antoine, merci Arnaud. À la rentrée, si Dieu veut. Je reprends la parole dans 3 minutes, juste pour montrer à Daniel Amiche que je ne pars pas comme ça.